Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle édition de Retour en Air. Ça fait tellement de temps qu'on s'est pas vu, enfin, façon de parler. Les temps changent, comme on dit. Pour ceux qui nous ont écoutés depuis l'année dernière, autant vous prévenir que notre équipe a un peu changé. Il n'y a plus Charles, Caroline, Lana ou Maeva. Mais je suis fier de vous annoncer de nouveaux venus. Je vous présente Alexandre, Laura, Mélodie, Nicolas et Abby. Aujourd'hui, parlons pop culture. Laura va nous présenter les mangas. Pour ma part, je vous parlerai du genre cyberpunk. Et Alexandre et Mélodie vont vous parler du cosplay. Avec Laura, Alexandre a pu profiter de Cherizy Manga pour interviewer des artistes. Et sans plus tarder, Laura nous transporte au Japon, le pays du manga. Bonjour Laura.
Bonjour Dimitri. Manga. Ce terme japonais peut se traduire par esquisse rapide ou encore dessin exagéré. De nos jours, de nombreuses librairies vendent des mangas. Mais connaissez-vous l'histoire du manga ? Connaissez-vous l'histoire de la bande dessinée japonaise ? On remonte le temps, au Japon, à l'époque de Nara, au 8e siècle, où nous trouvons les ancêtres du manga, les emaki et les eon. Les emaki sont des rouleaux dans lesquels sont narrées des histoires illustrées. Un des premiers emaki est d'ailleurs la copie d'une œuvre chinoise. Les eon, quant à eux, sont des livres d'estampes. Faisons maintenant un bond jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle. C'est une période importante pour l'histoire du manga. En effet, à cette époque, le Japon sort d'une longue période d'isolement qui a duré quasiment 2 siècles. Le pays du soleil levant se modernise et se retrouve influencé par des codes occidentaux. La presse se développe par le biais de journaux qui évoluent et se calquent sur le modèle anglo-saxon. Des caricaturistes européens tels que Charles Wergman ou Ferdinand Bigot participent alors au début de la bande dessinée dans les journaux japonais. C'est le prémisse de l'arrivée des mangas. Le premier à utiliser le terme manga fut le peintre Hokusai, mondialement connu pour son œuvre La Grande Vague de Kanagawa. Hokusai utilise le mot manga dans le titre de son carnet de croquis, Hokusai Manga. Le terme est utilisé en référence aux dessins rapidement esquissés se trouvant à l'intérieur. Ensuite, le terme manga n'est alors réutilisé qu'en 1902 par Rakuten Kitazawa, qui se définira alors comme étant un mangaka et qui est, de nos jours, considéré comme un des pères du manga. Il dessine alors des bandes dessinées humoristiques pour un journal et il finira par créer son propre magazine, le Tokyo Puck. Il faudra encore attendre les années 40 pour que le manga connaisse un énorme boom au Japon. À cette époque, les temps sont durs et les Japonais ont besoin de divertissement et de s'évader de leur vie quotidienne. Et c'est là que le manga intervient. Durant cette période, le manga devient un outil de divertissement, mais aussi de propagande. Puis, au début des années 50, sortent des œuvres comme « Le Roi Léo » et « Astro, le petit robot » d'Osamu Tezuka. Ce nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, Osamu Tezuka est connu pour être le père du manga moderne et possède le surnom de « Dieu du manga ». Rien que ça. Fan d'un certain Walt Disney, Osamu Tezuka s'est inspiré de Bambi pour ses dessins. Et notamment pour les yeux de ses personnages, qui ont la particularité d'être assez grands et très expressifs. En 1955, le manga est en plein essor. Des librairies spécialisées dans la vente de bandes dessinées voient le jour au Japon. Malheureusement, les mangas sont jugés encore trop enfantins par la population. C'est ainsi que, 2 ans plus tard, on assiste à une diversification des styles de mangas afin que ces derniers puissent plaire à un public de jeunes adultes. Parmi les grands types de mangas qu'on peut retrouver, en voici quelques exemples. Le shonen, ciblant principalement les adolescents et qui sont généralement remplis d'action et qui suivent l'évolution de personnages devenant de plus en plus forts suite à des entraînements et en combattant des adversaires. Il s'agit du genre le plus connu et qui a permis au manga de se démocratiser en Europe. Parmi les représentations de ce genre, les plus connus sont sans doute Dragon Ball, One Piece et Naruto. Ensuite, on a le shoujo, dont les intrigues tournent généralement autour du développement des sentiments des personnages et mettent en avant pas mal d'histoires d'amour, comme Fruit Basket ou encore Switch Girl. Un grand sous-genre du shoujo intègre de la fantasy, comme le propose Sailor Moon. Comme dernier exemple, je vous propose le seinen, dont les intrigues ciblent plutôt un public adulte. Les thématiques abordées sont plus matures, comme le montrent les titres Berserk ou encore Akira. À la fin du XXe siècle, nous sommes à l'apogée du phénomène que représente le manga grâce à une diffusion massive des œuvres et des prix modestes. Actuellement, le manga est devenu un phénomène de société car il est capable de toucher toutes les classes sociales, mais aussi toutes les générations, de par les thèmes abordés et de par les adaptations en jeux vidéo, animés, qui sont des séries d'animation japonaises, ou films qui se sont développés. Sur les 6 premiers mois de l'année 2022, 23 millions de mangas ont été vendus en France, selon une étude GFK.
Merci beaucoup Laura pour ta participation. Le manga peut être en quelque sorte considéré comme un genre littéraire, avec notamment plusieurs genres. Policier, action, fantastique, ou encore science-fiction. Je vais m'attaquer à la science-fiction, et en particulier le cyberpunk. Le cyberpunk, qu'est-ce que c'est, seriez-vous tenté de me dire ? Il s'agit d'un sous-genre de la science-fiction avec une vision plus pessimiste du futur, à plus ou moins long terme. On envisage généralement le futur comme une vision plus écologique, avec des sociétés plus justes grâce aux progrès technologiques. Dans le cyberpunk, on oublie. Le concept d'écologie n'existe plus, les inégalités se font encore plus ressentir, ceux plus riches ont accès aux nouvelles technologies et aux autres innovations scientifiques, et les entreprises multinationales ont la mainmise sur le gouvernement. Le protagoniste, lui, est généralement un génie de l'informatique. Il connaît ses lignes de code sur le bout des doigts, mais il est plutôt antisocial. On pourrait parler d'anti-héros, un héros qui n'en est pas vraiment un. On en retrouve plusieurs types, au nombre de 4. Un héros normal dans un cadre normal, un héros maléfique qui se sert de ses pouvoirs mais au service du mal, un peu comme Fantomas. Un héros plutôt décevant qui n'utilise pas ou qui utilise mal ses pouvoirs et qui sème le désordre plus qu'il ne sauve le monde. Ce qui peut donner lieu à des scènes vraiment hilarantes. Et un héros décalé, ou héros malgré lui, qui est un personnage normal qui se retrouve impliqué dans une quête extraordinaire alors qu'il voulait tout simplement vivre une vie normale. Dans le genre cyberpunk, le protagoniste s'engage souvent en tant que mercenaire et hacker, souvent ancien employé d'une multinationale, pour survivre dans sa mégapole. Il est très souvent opposé aux très grosses entreprises en considérant que l'ultra-capitalisme est la source des inégalités sociales et du désastre écologique. On peut dire dans ce cas que le cyberpunk a donc un côté politique. Ce genre est d'autant plus terrifiant qu'il décrit plus ou moins la réalité si aucune décision concrète en termes d'égalité et d'écologie n'est prise. Ce genre est né grâce au roman Neuromancien de William Gibson, paru dans les années 80, et qui est pionnier dans le genre cyberpunk. Côté pop culture, de nombreux films s'en servent, comme Blade Runner de Ridley Scott, qui met en scène des réplicants, des êtres humains totalement artificiels pour servir d'esclaves modernes dans des colonies martiennes et où une unité de police appelée Blade Runner veille sur la paix entre les humains et les réplicants. La trilogie Matrix des Wachowski, qui ont également réalisé le film V pour Vendetta ou la série Sense8, associe aussi un côté philosophique sur la distinction entre le réel et le virtuel, où Thomas Anderson, alias Neo, célèbre pirate informatique, a été mis en contact avec Morpheus qui l'informe de l'existence de la Matrice avec le message suivant. « Réveille-toi, Neo. Tu es dans la Matrice. Suis le lapin blanc. » Toc, toc, Neo. Et lui propose plus tard de choisir entre deux pilules, une bleue et une rouge. C'est l'une des scènes les plus iconiques de la trilogie. Le film Ready Player One de Steven Spielberg met en scène d'un monde totalement désemparé où toutes les personnes se réunissent autour d'un jeu MMORPG. Un jeu en ligne massivement multijoueur. En réalité virtuelle qui s'appelle l'Oasis, pour échapper à la cruelle réalité. Une série Netflix, Black Mirror, a une particularité. Les différents épisodes n'ont absolument aucun lien chronologique entre eux, tout comme la série La Quatrième Dimension, qui en est l'ancêtre. Ils abordent des termes différents mais tout aussi préoccupants. Comme le système de notation des personnes dans l'épisode Chute Libre, saison 3, épisode 1. On peut voir que la fiction rejoint la réalité, comme on peut le voir en Chine, qui a mis en place un système de crédits sociaux qui n'est pas sans rappeler ce fameux épisode de Black Mirror. Le sujet de l'IA, l'intelligence artificielle, est également abordé, où elle acquiert ici une véritable conscience. C'est le cas de l'animé japonais Ghost in the Shell, où un cybercriminel du nom du marionnettiste prend possession des androïdes. Ce cybercriminel s'avère être une intelligence artificielle qui est devenue consciente et voulait se reproduire et créer un tout nouveau genre humain. Dans l'animé, Ergo Proxy, des robots appelés Autorefs sont protégés d'un virus qui s'appelle Cogito, en référence au Cogito de Descartes. Une fois l'auteur infecté du Cogito, il acquiert et développe une véritable conscience. Quitte à rester au Japon, son expansion économique et urbaine dans les années 80 a notamment inspiré l'univers cyberpunk et notamment l'apparence des mégalopoles, très urbanisées avec une ambiance lourde et sombre. Les problèmes sociaux et écologiques sont souvent au cœur de débats politiques et les œuvres cyberpunk les abordent de manière pessimiste et montrent ce dans quoi le monde pourrait basculer si aucune action n'est prise. Pour conclure, les œuvres cyberpunk pourraient changer notre point de vue sur le monde de manière radicale et nous poussent à prendre des décisions pour repenser notre futur. Et bien sûr, qui n'a jamais eu l'envie d'incarner un personnage dans sa vie ? Soulever le Mjolnir, endosser l'armure du multimilliardaire Tony Stark, rendre la justice vêtue de bleu et de rouge le jour, ou tout en noir la nuit. Avec le cosplay, c'est possible. Les super-pouvoirs en moins. Alexandre et Mélodie vont nous en dire plus.
Bonjour Dimitri. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler du cosplay.
Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le cosplay ?
Eh bah, pour commencer, on va définir ce qu'est le cosplay. Ça vient de costume et roleplay. Mais dis-moi, Alexandre, sais-tu ce que c'est le roleplay ?
Ouais, je crois. Le roleplay vient de l'anglais. Cela signifie jouer un rôle. Le roleplay est l'incarnation d'un personnage.
Oui, c'est ça.
Ok, mais concrètement, c'est quoi le cosplay ?
Eh bien, le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction, en imitant son costume et ses cheveux.
L'autre jour, j'ai vu que le cosplay a été inventé au Japon. C'est vrai ?
Et non. En fait, ça a été inventé aux États-Unis en 1939, par Forrest Ackerman. Mais ça a connu une très grande expansion au Japon.
Mais alors, c'est arrivé quand au Japon ?
C'est arrivé dans les années 80. Et savais-tu que le terme cosplay avait été inventé par un journaliste japonais ?
Non. Par contre, je sais que c'est arrivé en Europe dans les années 90. Mais comment ça s'est aussi vite popularisé ?
C'est grâce à la sortie de la série Star Trek, puis de Star Wars, que des fans ont commencé à se déguiser pour aller voir les films.
D'accord ? Mais pourquoi les gens continuent si, à la base, c'était pour la sortie des films ?
Et pourquoi quoi ? C'est avant tout un moyen de se divertir, de s'amuser et de se faire plaisir.
Du coup, ça demande beaucoup d'investissement tout ça ?
Oui, car il y a le maquillage à préparer, enfiler le costume et mettre la perruque ou arranger ses cheveux. Ça demande donc beaucoup de préparation et d'investissement.
Dis-moi, tu as l'air bien renseigné. C'est parce que tu en fais ?
Oui, et d'ailleurs ça fait maintenant 5 ans que j'en fais.
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ?
En fait, j'ai commencé à lire mon premier manga en 2018, et c'est justement ce dernier que j'ai lu qui m'a vraiment fait m'y intéresser. Par la suite, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui se cosplayait en un personnage du manga Fairy Tail, et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Donc, pour mon anniversaire, je demandais à ce qu'on m'en achète un, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé le cosplay.
Et qu'est-ce qui te motive à continuer ?
Je pense que c'est l'envie de m'améliorer, mais surtout de continuer à m'amuser et à me faire de nouveaux amis. Et peut-être même inspirer d'autres gens à vouloir en faire comme cette cosplayeuse qui m'a fait débuter.
Combien de temps tu prends en moyenne pour te cosplayer ?
Alors là, en fait, ça va dépendre du personnage que je fais. Mais dans la globalité, 1h30 à 2h de préparation. Mis à part ça, personnellement, je vais ensuite faire des photos et des vidéos de mes cosplays. J'ai donc acquis certaines compétences dans le numérique, sur les retouches photos ou encore le montage vidéo.
Dis-moi, quel personnage as-tu incarné ?
Les principaux que j'ai pu faire sont Venti de Genshin Impact, Shiro de No Game No Life et Emma de The Promised Neverland.
Et quel personnage souhaiterais-tu faire ensuite ?
Les prochains que je voudrais faire sont Paimon et Lumin de Genshin Impact.
Merci Mélodie d'avoir répondu à mes questions.
De rien, et j'espère que vous en avez appris plus sur ce qu'est le cosplay.
Et bien sûr, le cosplay est légion dans les événements liés au manga et à la pop culture japonaise, et notamment à la Japan Expo ou encore à l'échelle plus locale, à Cherizy Manga. Alexandre et Laura ont pu d'ailleurs interviewer quelques artistes.
Eh oui, Dimitri, nous nous sommes rendus au festival Cherizy Manga, les 8 et 9 octobre 2022, à Cherizy. Là-bas, nous avons pu interviewer le mangaka français Evan Barnot, dont le pseudonyme est Eruplot, auteur d'Enfants des Abysses, ainsi que le fondateur des éditions H2T, Mahmoud Larghem.
Quel est votre genre d'écriture et votre univers ?
Quel genre d'univers j'écris en fait ? C'est plus la fantasy, donc inventer un nouveau monde, de nouvelles règles, pour me détacher, oui, des pièges historiques, ne pas faire d'anachronisme, tout ça. Donc je peux réinventer tout ce que je veux, et j'ai beaucoup d'inspiration monstre, bestiaire. Donc je mets à profit mes connaissances pour créer un nouveau monde.
Quelles sont vos inspirations? Vous en parliez.
Alors, il y a le manga Radiant français qui m'a inspiré au lycée. Et c'est ça qui m'a aussi fait convaincu que c'était possible de faire du manga. Et il y a le manga Claymore. Donc ça, c'est aussi pour le côté bestiaire, avec beaucoup de monstres et aussi des créatures uniques.
Vous faites tout vous-même ou vous travaillez avec un artiste pour les dessins?
Alors moi, je dessine et j'écris. Je suis tout seul, je n'ai pas d'assistant. J'écris mon histoire et ensuite je la dessine, donc le storyboard jusqu'au tramage.
Comment vous expliquez le succès du manga en général en France?
Le manga, quand j'ai découvert ça, je ne connaissais que la BD avant. Et je me suis dit, oui, là c'est un format poche, donc c'est pratique à lire. L'histoire est beaucoup plus axée sur l'émotion. Donc c'est pour ça que le lecteur est beaucoup plus pris dans l'histoire, dans le scénario. Et c'est ça qui l'incite aussi à suivre les mangas. Le manga en France, ben, parce qu'on est très ouvert sur la culture japonaise.
Comme première question, est-ce que vous pourriez nous présenter vos éditions?
Moi, je suis Mahmoud Larghem, fondateur des éditions H2T. Et c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la création originale de mangas. En fait, on n'importe pas de mangas du Japon, on ne fait pas de traduction. On crée les mangas directement avec les auteurs, comme le ferait une maison d'édition de bande dessinée franco-belge, par exemple, mais pour du manga et avec des auteurs du monde entier.
Depuis quand elle existe, votre maison d'édition?
H2T existe depuis 2016.
Quel type, quel genre de manga vous éditez? Est-ce que c'est tous les genres, tous les types, ou est-ce qu'il y a des publics cibles, des genres particuliers qu'on retrouve à H2T?
Nous, on fait vraiment tous les genres. On a une petite préférence sur la fantasy. Donc on a des titres, que ce soit en shonen ou en seinen, qui eux vont s'adresser à un public. Voilà, on peut commencer à lire nos mangas à partir de 10 ans. Mais on a certains titres, oui, qui vont s'adresser à un public un peu plus âgé, 14 ans, 16 ans. Après, on a de la romance également, même de la romance urbaine contemporaine ou de la romance toujours dans la fantasy. Et évidemment, on a une part de science-fiction qui est présente aussi dans nos publications. Donc on touche un peu à tout et on ne se donne pas de restrictions ni sur le type d'œuvre publiée, ni sur le public qu'on vise.
Comment est-ce que vous choisissez du coup les œuvres, les mangas que vous allez publier, puisque vous touchez à tous les genres? Donc il faut bien sélectionner un petit peu.
La particularité, c'est que des auteurs de mangas, de bons auteurs de mangas non japonais, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de candidats et il y a peu d'élus. C'est un peu aussi la particularité du milieu de l'édition, c'est que beaucoup de gens peuvent écrire ou peuvent dessiner, mais pas beaucoup sont sélectionnés. Effectivement, il y a un travail qui est fait, et travailler en bande dessinée a l'avantage de me permettre de savoir très rapidement, graphiquement, si l'œuvre a du potentiel. Et évidemment, je me plonge dans l'histoire, mais au moins, il y a la patte graphique qui permet tout de suite de savoir si techniquement, l'auteur est au niveau. Donc nous, notre but, c'est pas de copier ce que font les Japonais, mais d'utiliser leur code pour obtenir une œuvre originale un peu hybride, mais profondément inspirée de ce que les Japonais font, sans jamais les copier. Donc à partir de là, il y a une première sélection qui est faite, parce que dans beaucoup de dossiers que je reçois, d'auteurs qui veulent être publiés, je vois venir des copies de mangas déjà existants. Beaucoup de titres inspirés de One Piece, beaucoup de titres inspirés de Fairy Tail. À titre personnel, ça me gave. Donc je change de trottoir quand je vois des propositions comme ça. Alors que des titres un peu plus intimistes, avec un véritable message, quelque chose qui fait écho au parcours de vie de l'auteur aussi, va davantage m'interpeller. Donc la sélection va se faire d'abord sur le plan technique, est-ce qu'il sait dessiner, est-ce qu'il sait bien mettre en scène, et ensuite sur le fond, sur ce que l'auteur a raconté et quel message il a envie de faire passer. Donc ça donne quand même des éléments, des critères qui me permettent de assez facilement distinguer les titres que j'ai envie de publier. Et je ne me repose pas trop sur l'attente du marché. Alors que le marché a tendance à vouloir tendre vers les titres un peu formatés. Il y a une marvelisation et une super-héroïsation du genre manga aujourd'hui qui fait que c'est ce que beaucoup d'éditeurs cherchent à faire, d'une certaine façon. Et nous, en créa, on ne veut absolument pas entrer là-dedans. On pense qu'il y a un public pour tous les genres. C'est pas celui qui va se ruer sur le dernier tome de My Hero Academia à la Fnac, c'est sûr que non. Donc il y a un travail de pédagogie à faire aussi. Et donc ma sélection des titres repose aussi sur ma capacité à promouvoir le titre correctement pour atteindre un lectorat pas acquis d'entrée de jeu, mais qui n'est pas désintéressé pour autant de ce qu'on peut faire.
D'accord. Est-ce que vous auriez un coup de cœur de vos éditions à nous présenter? Éventuellement, quel,
Quel est de votre dernier coup de cœur, par exemple, en date?
Un peu comme demander à des parents de dire quel est leur enfant préféré. C'est toujours très compliqué. Et c'est un truc qu'on ne fait jamais. Et même s'il y a un ou deux titres qui, moi, en tant que lecteur, pas en tant qu'éditeur, ils se valent tous dans ma maison d'édition. Mais en tant que lecteur, certaines séries me parlent davantage, mais c'est purement personnel et je ne dirai pas lesquelles. Ce que je peux présenter particulièrement, c'est les auteurs et les séries qui sont présentes sur le festival. On en a 4. 2 qui sont écrites par des auteurs français. C'est des nouveautés de l'année 2022. J'aurais tendance à les mettre en avant. Question de contexte. Donc un titre qui s'appelle Bravest Journey, c'est du medieval fantasy. Un autre titre qui s'appelle Enfant des Abysses, c'est du dark fantastique. Et on a 2 autres œuvres aussi créées par des auteurs brésiliens qui sont avec nous cette année sur le festival Chérisy. Voilà, qui sont Magnum Opus, une série en 3 tomes sur des enfants qui fuient la misère du monde. Et Rasetsu Primal Hunt, c'est une traque entre des créatures mi-hommes, mi-bêtes aux 4 coins du monde. Voilà, c'est un peu les titres que j'ai envie de mettre en avant cette année.
Le festival Chérisy Manga édition 2022, c'était plus généralement un marché du livre avec plusieurs auteurs présents, des éditions et la librairie Drouaise, La Rose des Vents. Et c'était surtout 2 jours remplis d'animations, tels que des représentations de danse, un concours de cosplay, des jeux et des ateliers tels que la confection d'origami ou la présentation d'une cérémonie du thé japonaise. On notera également la présence de l'association Star Wars Normandie, avec leur exposition d'objets divers et variés autour de l'univers de Star Wars, leurs membres en cosplay impressionnant tel qu'un Chewbacca grandeur nature. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du festival Chérisy Manga.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre et Laura pour cette interview aussi riche qu'intéressante. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles chroniques en air.